suis moi-même musicien et mon œil a été accroché par cette liste d'instruments et en particulier par ce luth à 10 cordes du psaume 33 et tout l'orchestre du psaume 150 mérite-t-il d'ailleurs, on peut se le demander, une prédication. J'imagine déjà la tête de ceux que les noms de chalumeau, de harpe, de guitite ou autre kinor, l'harpe, ne mettent pas particulièrement en joie, mais je les invite à m'accorder un petit peu de leur patience. Ces noms d'instruments antiques, dont nous ne savons quasiment rien, sont la trace de la vie spirituelle et du témoignage de foi des hommes et des femmes de la Bible. Et je crois qu'ils peuvent être encore le nôtre aujourd'hui. Nous n'avons aucune idée du son que pouvaient produire ces instruments à cordes. Avant, ces cymbales sonores, il n'existe aucune partition, aucun enregistrement des recueils de David ou des fils de Corée. Nous avons seulement leurs traces, et leurs traces est partout. Et je donnerai que cet exemple qui nous touche de si près lors du dernier repas, Jésus avec ses disciples, juste avant d'entrer sur son chemin de souffrance, a chanté les psaumes. Quelle était l'harmonie de cette petite chorale de 13 personnes? Quelle était la mélodie et la rythmique de leur psalmodie? Nous n'en savons rien, nous savons qu'ils ont chanté. Ce qui est certain, c'est que chaque génération de croyants a eu besoin de chanter, de s'approprier les psaumes de la Bible pour dire sa foi dans les moments difficiles, les moments d'épreuve et aussi dans les moments de grande joie. Depuis David et Jésus, chaque génération a composé ses cantiques à partir de mélodies qui étaient dans l'air du temps. Les mélodies oubliées dans nos églises évangéliques de la Réforme, du psautier de la Réforme au XVIe siècle, composées par Philibert Jambes de Fer, qui n'était pas un joueur de foot, hein, qui était un compositeur de musique pour l'Église, ou Claude Goudimel. Leurs mélodies ont été puisées dans la musique pop de leur époque. Et exactement comme les cantiques de l'Armée du Salut. Vous savez, ces orchestres, instruments avant, qui ont un cachet particulier, eh bien, ce sont des mélodies du 19e siècle, en grande partie des chansons à boire, convertis en cantiques. Ce sont, j'allais dire malheureusement, un peu quand même, les générations suivantes qui vont sacraliser ou diaboliser la musique. Les compositeurs, eux, n'avaient que le souci de permettre à l'Église de célébrer joliment, de témoigner de sa foi dans la culture du temps, de leur temps. Et exprimer sa foi pour Dieu, depuis les origines des temps, même dans la Genèse, ce fameux Yubal qui est l'ancêtre des musiciens, dans les bons et les mauvais jours, exprimer sa foi pour Dieu, c'est chanter, c'est faire ensemble de la musique. Le chant, au son des instruments, c'est la respiration de la foi, c'est le pouls émotionnel d'une communauté qui dit sa joie et sa peine, son espérance et ses doutes, ses craintes et sa foi. Et c'est bien ce que nous vivons, nous aussi, depuis le début de cette période de confinement, d'une manière un peu spéciale. Quelle joie, quelle émotion de retrouver dimanche après dimanche les visages amis de musiciennes, de musiciens, les voix de celles et ceux qui aiment Dieu et qui le font savoir en chantant et en jouant de leur instrument. Alors, après cette introduction un peu générale, hein, sur l'importance du chant dans l'Église, dans le témoignage chrétien. Voyons un peu de plus près ce luth à 10 cordes qui m'intrigue et sur lequel est acclamé le Seigneur dans le psaume 33, verset 2. Il est demandé de rendre grâce sur le luth à 10 cordes. Mais en fait, ce qui est écrit dans l'hébreu, c'est pas luth à 10 cordes, c'est le nébel 10. Voilà l'instrument en question. Il n'est pas question de cordes, seulement du chiffre 10. Alors, on s'est cassé la tête, hein, beaucoup réfléchi, en se demandant pourquoi était précisé le nombre de cordes d'un instrument aussi connu que le luth. On ne va pas dire, par exemple, ce matin, que Oni nous a accompagnés au piano à 88 touches. Ça n'a pas de sens. On dit qu'elle a joué du piano. Ce chiffre 10 est donc intriguant et a fait couler de l'encre. Alors, on y a vu, bien sûr, une référence, une allusion aux 10 commandements. Et du coup, le luth à 10 cordes deviendrait une image du croyant dont la vie, qui est fondée sur la loi de Dieu, ferait vibrer chacun des commandements sans fausse note. C'est très beau. Et d'ailleurs, le verset 4 qui suit dans le psaume 33 le dit. La parole du Seigneur est droite, on pourrait comprendre droite comme une corde de luth qui résonne. Notre vie, comme un luth, comme le Nebel 10, est appelée à faire caisse de résonance avec les paroles de Dieu. La vie chrétienne devient ainsi une musique, une harmonie capable de changer le monde. Bien sûr nos vies, mais au-delà de nous-mêmes, le monde. En fait, ce luth à 10 cordes, qui est l'instrument liturgique de ce psaume et bien d'autres, nous décrit de manière très poétique les enjeux de l'existence. Par exemple, il serait complètement absurde, vous êtes d'accord avec moi, ridicule, de venir jouer un match de tennis avec une guitare en guise de raquette, ou de rejoindre l'orchestre avec une raquette en guise de guitare. L'instrument du croyant, c'est pas facile, c'est pas le plus simple, doit résonner avec justesse et avec pertinence. Pour le dire autrement, comme chrétiens dans le monde, nous avons une partition prophétique à jouer pour notre temps. Nous ne sommes pas là pour annoncer sans discernement les messages pseudo-visionnaires, souvent catastrophistes, complotistes, qui défilent en continu. C'est la parole de Dieu qui doit résonner en nous comme une musique originale, belle et entraînante. Bon. Ceci dit, il ne faut peut-être pas nous voir aussi plus spirituels, plus clairvoyants, plus beaux chanteurs que le reste des hommes. Le mot Nebel traduit donc, hein, vous avez compris, traduit par le mot luth en français, vient d'un mot, c'est très intéressant, qui signifie en hébreu le seau pour puiser, le vide. Mais aussi l'idiot, l'imbécile, hein, comme dans ce psaume où l'insensé, l'idiot, le Nabal, dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est le même mot. Par certains côtés, nous pouvons être comparés à un seau, S-O-T, un seau vide, un contenant sans jugeote, qui se laisse remplir sans discernement de tout ce qui passe, de toutes les doctrines sociales, politiques, religieuses. Ou comme l'apôtre Paul l'écrit aux Corinthiens, les mettant en garde, toujours dans un registre musical, sans amour, sans l'amour, Nous sommes des cymbales retentissantes. Mais revenons à notre lutte. Nous l'avons vu tout à l'heure, il n'est pas question de cordes, seulement du chiffre 10. Acclamez Dieu avec le Nebel 10. Le chiffre 10 en hébreu, c'est aussi un mot qui est de même racine que le mot riche. Mais Nebel, nous venons de le dire, signifie aussi vide. Deux mots qui sont très difficiles à concilier quand on y réfléchit, le vide et le riche. Mais voilà encore une belle image des contradictions que nous sommes capables de rassembler en nous-mêmes et aussi du combat que nous sommes appelés à mener. Mais peut-être aussi de la beauté de la vie chrétienne. Parce que, et là je vais dans une autre direction, plus que la stupidité, on peut aussi choisir de donner à ce vide, au vide de la caisse de résonance du lutte, de lui donner le sens d'une attente, d'un silence à travers lequel vont s'évacuer tous les bruits inutiles de nos vies, les bruits agressifs, et disposer notre cœur devant Dieu. Tous les musiciens le savent, en tout cas les bons musiciens, la musique pour être belle a aussi besoin de silence, de vide, d'attente. L'enseignement de Jésus dans les Béatitudes le dit autrement, nous révélera finalement le secret de la vraie richesse. C'est un appauvrissement. Le secret de la paix véritable qui est au bout du renoncement. Le secret de la joie qui est au cœur même de l'épreuve. Vous voyez que ce lutte à 10 cordes est une source intarissable de méditation. Nos vies sont appelées à vibrer comme lui dans la joie de la célébration et l'amour de Dieu et du prochain. Avec son lutte à 10 cordes, par sa vie tout entière, chacun de nous est appelé à faire résonner en lui un cantique nouveau, comme l'annonce ce psaume 33. Le cantique que Dieu finalement chante dans la parole et la présence de Jésus. C'est un message de grâce et de vérité, un message de paix et d'amour. Alors, sœurs et frères, jouons cette partition. Jouons tantôt avec force, tantôt avec délicatesse, mais jouons. Tantôt dans le silence, tantôt dans la parole, mais jouons. Et toujours dans l'amitié avec tous les hommes. Parce que nous sommes tous les musiciens de la grâce. Amen.